Oh oh. Oui.
Toc, toc, attendez, toc. Attendez.
Il est là.
Oui. Ouais, entrez.
Arnaud, je peux entrer dans votre loge?
Ouais, je vous en prie, enfin, voilà. C'est un peu.
On va passer juste avant le début de l'émission dans la loge d'Arnaud et Marc qui prépare ses personnages pour tout à l'heure. Alors là, il y a pour décrire un peu pour les auditeurs, Arnaud et Marc et là devant un miroir avec tous ses accessoires, il y a la tenue du poète Jean-Noël Mistral.
Hors d'ici tout à l'heure.
Là, vous faites vos vocalises.
Je fais une dizaine de hors d'ici tout à l'heure.
Des hors d'ici tout à l'heure qui permet. Ah ben hier, il y a Atman Kelif qui est dans votre loge.
Oui.
Habillé un petit chien. Atman, vous aimez bien.
J'aime bien regarder Arnaud se préparer.
Hors d'ici tout à l'heure.
Qu'est-ce que ça vous permet de faire?
Ici de la VAR, c'est bien.
Hors d'ici tout à l'heure, pardon.
Ça vous fait travailler vos dentales et vos sifflants.
Ça fait. Ouais, tout à fait. C'est technique, mais c'est aussi dans l'intention.
Alors, il y a tout votre petit barnum, là. Il y a une photo de votre famille, là, sur le miroir.
Il y a des haltères.
Il y a des haltères, il y a vos onguents, votre maquillage, votre fond de teint. C'est vraiment tout ça. Ça fait rêver un peu ce petit monde de l'artiste, du clown, on peut dire. Avant de revestir ses habits de lumière.
C'est dur, non, dire ça.
Ah non, c'est vraiment c'est la tradition de Grock à vous. La tradition
Grock
du clown.
Qui était quand même, ouais, bon, je le prends bien.
Quelle voix vous allez interpréter aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais aller dans les graves.
Vous allez mettre le costume d'ammoniacal, qui est entièrement tissé à la main. C'est Yves Saint-Laurent qui vous l'avait créé à l'époque.
Oui, c'est ça. C'est Yves Saint-Laurent qui me l'a créé à l'époque, parce que j'aime bien répéter toutes les phrases.
Oui. Et, quel personnage? On peut avoir déjà un petit éventail de ce qu'on
entend.
Ah oui, celui-là.
C'est un professeur qui va parler de la fin du monde tout à l'heure.
Ah oui, ça sera bien, je le note. Parce que Puis même s'il n'intervient pas sur ses ondes, il interviendra.
Oui, il interviendra.
Qui aura d'autres, peut-être?
Radio Virgin. Il y aura...
Ah ouais, je vois.
Bon,
ouais.
Ça, peut-être pas pour aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
C'est une imitation de Roger Carrel qui faisait Donald.
Oui, j'ai Mickey.
Sinon...
Tout quand. Eh bien écoutez, on va refermer avec beaucoup de pudeur la porte de votre... Ah oula. Il est en train de préparer ses personnages.
Ouh
là là, c'est un personnage de colère.
Je vais partir avec vous.
Alors, je venais avec moi, Antoine, et on monte à l'étage. Alors là, je fais la montée de l'étage avec mes doigts, et on arrive dans le bureau de Thierry Paret. Thierry Paret, qui est une haute autorité, qui est là en direct.
Près de 4 heures de débat hier soir entre.
Oui, il a déjà commencé. On reprend le journal.
C'est pas arrivé.
Il est au comité central du journal et des informations nationales, avec 3 ministres au-dessus de son épaule qui vérifient ce qu'il dit. Bonne journée.
Bonjour. Près de 4 heures de débat hier soir, donc entre les 11 candidats à la présidentielle. Vu l'exercice compliqué, je trouvais que c'était pas trop mal. Hein. Je sais pas si vous avez regardé cette petite affaire. Alors évidemment, à 11, il était difficile d'entrer dans le détail des programmes. Ça n'a pas été simple d'échanger de manière constructive. Mais bon, chaque candidat a pu s'exprimer aux alentours de 18 minutes. Dans ce contexte, ce sont surtout les petits candidats, entre guillemets, qui ont été les plus offensifs, à l'image de Philippe Poutou. Au sujet des affaires, un peu maladroit sur François Fillon, le candidat du NPN n'a pas épargné en revanche Marine Le Pen. Quand on est convoqué par la police, nous, on n'a pas d'immunité ouvrière, a-t-il notamment déclaré. Autre échange assez vif entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Fichez-nous la paix avec la religion, a rétorqué le candidat de la France Insoumise à Marine Le Pen, alors que cette dernière défendait l'installation de crèches en mairie. On parle des crèches de Noël, bien sûr. À l'issue de ce débat, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été jugé le plus convaincant par 25% des personnes interrogées, selon un sondage ELAB. Ensuite, on trouve Emmanuel Macron, 21%, François Fillon, 15%, Marine Le Pen, 11%, Benoît Hamon, 9%, Nicolas Dupont-Aignan, 6%, Philippe Poutou, 5%, Nathalie Arthaud, 3%, François Asselineau, 3% aussi, Jean Lassalle, 1%, et Jacques Cheminade, 0%. 1 million d'affiches officielles des candidats à la présidentielle rassemblées dans un immense hangar situé à Gonesse dans le Val d'Oise doivent être acheminées pour être collées près des mairies et bureaux de vote dès lundi prochain, hein, puisque lundi prochain, c'est la date qui va marquer le démarrage officiel de la campagne présidentielle. La mobilisation des Guyanais, elle monte en puissance. Après 2 semaines de grève, ils ont pris la décision hier d'occuper le centre spatial de Kourou pour protester contre les sous-investissements de l'État. Aucune raison a priori, enfin, sauf si le gouvernement débloque de l'argent, aucune raison a priori que la situation évolue aujourd'hui. 58 morts, c'est le bilan du raid aérien qui a frappé hier la localité de Khan Cheikhoun en Syrie, une frappe au gaz toxique présumée. L'hôpital où les blessés étaient pris en charge a en outre été bombardé. Paris dénonce un acte ignoble. Une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui. Pour l'opposition syrienne qui accuse le régime, cette attaque remet en cause le processus de paix. Selon l'Union des organisations de secours et soins médicaux, c'est une organisation qui est basée à Paris, le bilan serait beaucoup plus lourd que celui annoncé. Hein. Il avoisinerait les 100 morts pour plusieurs centaines d'autres personnes intoxiquées. L'auteur de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en Russie serait un homme d'origine kirghize. Il serait donc originaire du Kirghizistan et il aurait acquis la nationalité russe. C'est le même homme qui aurait déposé aussi la seconde bombe désamorcée dans une autre station du même métro. Le dernier bilan de cette attaque fait état de 14 morts. C'est un combat de longue date que mènent plusieurs associations de défense des animaux. Un combat qui était censé franchir un cap hier avec la mise en application d'un nouvel arrêté pour encadrer davantage le fonctionnement des delphinariums en France. Les dauphins et leurs défenseurs attendront. Le gouvernement a décidé de reporter l'application de cet arrêté pour organiser un nouveau tour de table. Sans surprise, Fréjus Saint-Raphaël est éliminé de la Coupe de France de football. Le club a été battu hier soir 1-0 par Guingamp. En quart de finale, élimination également de Lille qui se déplaçait à Monaco. Les Monégasques se sont imposés 2-1 suite de ces quarts de finale aujourd'hui avec le PSG qui se déplace à Avranches et puis Angers qui reçoit l'équipe de Bordeaux.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une baleine échouée dans le studio. Regardez, il y a une baleine dans le studio.
Oui, je suis échoué.
Mais qu'est-ce que vous faites là, madame?
Je me suis trompé de route. J'allais en Antarctique. J'ai demandé mon chemin et ils m'ont dit à droite. Je suis dans le studio, je peux plus sortir.
Bah mais là, c'est embêtant parce qu'on va, être obligé de... De louer des bulldozers,
Cousteau,
comment on va faire pour...
Cousteau
Il est mort.
Comment on va faire?
C'est
pas là.
C'est une vieille baleine, hein.
Si toi aussi, tu trouves une baleine dans le studio, accueille-la, caresse-la, parle-lui, ne la transforme pas en petite boîte de nourriture pour chat. Une baleine dans le studio... C'est une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de l'imprévu et de la nature chez soi. Bien loin des surgelés, des congelés, du monde en boîte, de l'immonde hyper connecté, la baleine, c'est la nature chez soi.
Une baleine dans le studio.
Une baleine dans le studio.
Une baleine, c'est la vie.
Sur une chorégraphie de Jean-Bernard de Tarandieu avec l'aide des DRAC et du comité ministériel de théâtre animalier, une baleine dans le studio est un spectacle qui peut se jouer chez vous si vous êtes plus que un. La compagnie Une baleine dans le studio se déplace partout, entièrement subventionnée par la région Rhône-Alpes avec le soutien de la région Picardie et la région Angevine. Une baleine dans le studio, ce sont des moments visuels comme ça, des moments sonores comme ça. Pour vos enfants, de l'émotion.
Moi aussi, j'aurais aimé être élevé par des parents.
Pour la politique, des phrases qui font mal.
Pourquoi on nous donne rien et on ferme les frontières?
Ne fermez pas les frontières aux baleines.
Une baleine dans le studio, un spectacle de gauche et de droite et du centre. Enfin, vous pouvez tous envoyer un petit peu d'argent. Avec Arnaud von Emmer.
Aïe.
Allez, à une baleine dans le studio.
7h, 9h. Plus près de toi.
C'est Rhinocéros.
Le morceau, oui.
Oui, c'est dans mon sound system, je le passe tout le temps, ça. Allez, on reçoit. C'est Bernard Burin. Allez, salut. Bernard Burin, l'invité de 8h13. Non, l'invité de 8h13.
Ah, pardon.
Bernard Burin, vous êtes le notaire de l'émission.
Oui.
On vous donne pas assez la parole, pourtant vous êtes assis en studio tous les jours avec nous, Bernard Burin. Bernard Burin, en tant que notaire, vous avez regardé le débat hier soir, vous me disiez au niveau de la loi Carrez, le nombre de métrages n'était pas suffisant pour 11 candidats.
Non, c'était pas suffisant pour 11 candidats, parce qu'effectivement, il n'y avait pas assez de distance entre les deux, ce qui fait qu'on... On confondait les personnes.
Bernard Burin, on confondait, bien sûr, parce que
même emplacement,
bien sûr, il faut une distance de sécurité, je dirais, au niveau de mètre carré.
Pour pouvoir discerner les...
Voilà, il faut 2 mètres carrés par tête de pipe, vous me dites, Bernard Burin.
C'est ce que je disais, par rapport à la carrière.
Et dites-moi, vous me disiez aussi, si vous voulez, je dirais, créer une plus-value sur votre mètre carré, faites un débat chez vous, parce qu'après, le lieu deviendra un lieu historique, lieu de mémoire, et très vite, on peut revendre avec une belle petite marge, une belle culbute.
Exactement, justement.
Les mecs de la télé,
et le fait d'organiser des débats ou faire quelque chose d'historique.
Oui, parce que là, hier, les gars qui ont organisé le débat, une fois que les débattants sont partis, ils ont revendu le local avec une belle petite culbute.
Ça, c'est sûr.
Une belle petite plus-value. Hein?
Bon, allez, vous avez vendu votre étude, non?
Autre chose, maintenant. Les connoisseurs, ils sont là. Tous les matins. Pourquoi sont-ils là tous les matins? Va savoir, peut-être parce qu'ils sont chassés de chez eux. En tout cas, ils viennent nous faire partager le meilleur de ce qui se passe en ce moment et de très très loin. Marie Misset, bonjour.
Oui, bonjour. Vous voulez que je vous parle de quelque chose ?
J'aimerais bien savoir ce que vous avez vu qui vous a taraudé ce matin, qui vous a chiquenaudé.
Alors, j'ai relu un article que j'avais lu hier dans le New York Times. Donc, on a le droit avec le décalage horaire. C'est sur le fait que les téléphones portables en Inde changent les relations entre les hommes et les femmes et qu'il y a beaucoup de gens qui se contactent, qui composent au hasard des numéros de téléphone pour pouvoir discuter avec des femmes dans un monde où le dialogue n'est pas toujours évident entre hommes et femmes. Alors, il y a un aspect un peu négatif, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui se font harceler par téléphone. Et l'aspect positif, c'est qu'il y a pas mal de relations, ils appellent ça des relations téléphone, qui naissent comme ça entre hommes et femmes. Il y a par exemple cet homme qui passe 3 heures par jour, tous les jours, à numéroter des numéros d'inconnus et à tenter d'entamer un dialogue. Alors lui, par exemple, bon, il est plutôt du côté harcèlement, mais il y a aussi le témoignage de plusieurs femmes qui passent, je ne sais pas, 1 heure tous les soirs sur le toit de là où elles travaillent pour discuter avec des inconnus avec qui elles entretiennent des relations par téléphone depuis parfois 1 an. Et alors, ce qu'elles racontent et ce qui est amusant, c'est qu'elles disent bah, « là, ils sont obligés de m'écouter, en fait ».
On va les recevoir, ces femmes, bien sûr, ici. Et dites-moi, comment on reconnaît un numéro de femme par rapport à un numéro d'homme ?
Je pense qu'ils tentent le tout, et puis quand on tombe sur un homme, on raccroche.
Allô, ma petite chérie ? Non, c'est pas elle.
Oui, souvent, les numéros de femmes finissent par un E.
Eh oui, bien sûr. Mon Dieu, c'est très très mignon.
C'est mignon. Non,
très bien, ça c'est bien. Charles, alors les connoisseurs, de temps en temps, on a vu aussi. Charlène, parfois aussi, vous avez regardé quoi ce matin ? Vous avez vu quoi ?
Ça m'arrive aussi. Dans Le Parisien ce matin, on parle de l'ouverture du salon des objets connectés à Lyon.
Les objets connectés à Lyon.
Et Le Parisien aime bien se moquer de la connexion, donc ils ont fait une petite sélection des objets les plus absurdes. Ça va du grille-pain qui tweete quand votre pain est grillé.
Oui, très bien.
Pour vous prévenir, c'est important. Les caméras dans le frigo pour suivre en temps réel l'état de vos courses et de votre alimentation.
C'est important.
La cravate avec code-barre
qui
pour
ne l'a
donner
pas.
Votre carte de visite, évidemment.
Qui ne l'a pas, la cravate code-barre.
La ceinture minceur qui se serre et se desserre autour de vous et vibre si vous grossissez.
Oui.
C'est important.
Et ça, c'est en vente. Tout ça, ça peut se trouver.
C'est en vente ou ça va l'être ?
Ça va l'être. Je suis impatient. Je n'ai de cesse.
Et alors, le mieux, le préservatif qui calcule vos performances et qui vient d'Angleterre et qui peut partager en ligne vos données très personnelles comme le rythme de vos mouvements, les calories.
Voilà, elle est là, ma France. Elle est de retour. On est là.
On a hâte.
On est sur le coup. Un tout petit peu de gym, peut-être. Là, on est là avec des objets hyper connectés.
Bon,
enfin, là, vous ne l'aviez pas, la gym, ça vous va. Trop tard pour la gym, c'est passé.
On en a fait une hier, j'ai des courbatures.
Alors, pas de gym ce matin.
Non, moi j'ai des courbatures d'avoir levé le bras et tout. Non, moi, Atmen Kedif pour la croix, je voulais dire quelque chose par rapport dans le petit monde d'Ansel et Gretel. J'ai appris que l'usine Haribo à Uzès licenciée. Alors, bon, que ce soit ArcelorMittal ou alors chez Goodyear, ça. C'est moins, mais dans ce monde magnifique des enfants, on nous dit que Haribo, c'est beau la vie. Hein, c'est le... Et pour les grands et les petits, comme.
Et les bonbons Haribo, il y a quoi ? Il y a les
Alors, il y a la réglisse en serpentin.
Oui.
Il y a la célèbre, l'immense, l'unique fraise Tagada.
Ah,
quand
fraise,
la fraise Tagada, quand même. Fraise. Et le petit ourson qu'on arrache comme ça, l'ourson.
Alors, il y en aura plus ou ça va être fait ailleurs ?
Alors, ils vont tout fabriquer dans presque le pays d'origine, parce que Haribo, pour l'étymologie, c'était inventé par Hans Bretel. À Bonn, donc il a pris Hans A, Acha, et Bonn, donc il a fait Haribo avec ça.
C'est administratif de nos amis allemands.
Voilà, c'est ça. Et donc ils partent tous, toute la production va être en Autriche.
Ouais. À la sortie
pour les
gazoduc.
États-Unis, où ils ont investi beaucoup d'argent dans le Wisconsin. Voilà.
Ça vous fait. Ouais, oui, alors c'est dommage.
Alors c'est triste, je trouve ça un peu lié à Uzès, donc ils sont pas dans la réglisse, mais un peu dans la mélasse, parce que tout d'un coup, voilà. C'était pour finir sur.
Sur un petit oui.
Sur un petit mot, très digne de la croix.
Un petit mot d'esprit, tout simplement. Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Tito.
Oui, alors moi, bonsoir et bonjour à tous. Par quoi on commence ? Enfin bref, c'est le moment.
Vous avez engagé le débat. Vous avez engagé le débat.
C'est le moment de planter, c'est le moment de faire les plantations. Si vous avez un jardin, vous pouvez mettre vos épinards, vos oignons, vos radis, vos carottes, vos chicorées, vos choux, vos laitues, ou vos cornichons, vos haricots. Par contre, si vous faites des tomates, il faut faire des petits plants. Des petits plants, alors on achète les petits sachets de graines, on les met dans du coton, on les fait germer. Après, on met ça dans des tout petits pots, et après, on peut mettre ça dans un gros pot. Et si vous avez une maison à Paris ou n'importe quoi, vous mettez votre gros pot avec votre petit plant de tomates devant la fenêtre, et mi-juillet, vous mangerez des tomates.
Bon, si vous avez une maison à Paris, vous avez sûrement quelqu'un qui le fait pour vous.
Aussi.
Non, alors, donc, c'est la saison. Hein,
c'est la saison, c'est maintenant qu'on plante.
Avril, hein, je vois aussi pour les fleurs.
Avril,
je
mai,
crois,
ouais.
On peut, les volubilis, les capucines et les lupins.
Ouais, voilà, on peut planter quelques fleurs aussi.
Tu as une maison à Paris, tu as un monoprix à côté, tu descends et tu peux acheter des tomates.
Non, mais c'est plus joli de faire pousser quelque chose quand même.
C'est bien, on est bien, on est bien, on est.
Il y a Thomas qui voulait dire quelque chose.
Thomas, ah, tomate, tu veux dire quelque chose?
Oh. Voilà. Oh. Je crois qu'on peut.
Bien joué.
Le matin, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de surmoi du tout. La parole est très décomplexée. Qu'est-ce que vous avez regardé?
Oui, non. Non,
on a envie de faire des petits sons.
Je sais pas, absolument. Oui, l'Observatoire français des. Oui, pardon.
Une petite compote, une compote équitable que j'ai achetée. J'ai l'impression, en mangeant ça, j'ai l'impression de sauver la planète. C'est un nouveau produit. Quand on en prend, on sauve la planète.
Comme banane.
Ouais.
Hier, j'ai discuté avec des gens qui écoutent la matinale et qui m'ont dit c'est très drôle, mais je ne comprends pas tout.
Oui, moi je ne comprends pas. Moi je suis d'accord.
Voilà, c'était ça en fait mon information.
Fait énormément de peine.
Oui.
C'est bizarre, hein, comme la tristesse arrive comme ça. Sans prévenir, on croyait avoir cette œuvre énormément protégée. On croyait avoir placardé sur les portes, ne pas oublier d'être heureux. On croyait s'être verrouillé dans une sorte d'illusion joyeuse et éphémère. Et non, on est rattrapé par le réel. Blessé, abîmé, sali par une petite phrase pas si méchante que ça, et tout s'effondre, on n'y croit plus, on rend sa blouse et ses petits crayons à l'économat, on part sur les routes avec son petit chapeau, son petit manteau, sa petite auto avec ses rêves derrière soi, et puis devant quoi, le chaume du, la retraite, et puis très vite le trou béant qu'on appelle la fin des choses, la fin du monde, la mort. Viens la mort, on va danser. C'est le titre de mes mémoires aux éditions A Conte d'Auteur. Viens la mort, on va danser, un cri de joie dans l'infini de la tristesse.
C'est un peu sensible, non?
Sinon, il y a quoi?
Non, c'était facile.
Je fais engueuler parce qu'on me dit, ah, et si, y a un truc qui s'allume en studio, c'est une sorte de lumière rouge, ça veut dire que c'est à nous de parler. Et là, branle-bas général, panique, bon sens, c'est tech. Alors, il y a beaucoup de... Il y a des projets étonnants, des projets innovateurs, il y en a un qui nous a séduit. Ce sont les permaculteurs de la chapelle. De quoi s'agit-il, Sophie Jankowski? Bonjour.
Bonjour Edouard. Alors ben, nous c'est on est la communauté Facteur Graine. En fait, on est une association de postiers qui rêvions en fait de faire pousser des légumes sur les toits de notre entreprise. Et ben, y a eu un appel à projet qui s'appelle les Pariculteurs à Paris, qui a pour ambition de transformer un peu les toits parisiens. Et quand on a vu qu'il y avait la Poste qui proposait un toit, on s'est réunis et on a imaginé une ferme urbaine sur ce toit. Donc c'est un toit, je ne sais pas si les Parisiens connaissent peut-être, c'est un bâtiment qui est jaune et bleu, boulevard de la Chapelle. Et on a 700 mètres carrés pour pouvoir y cultiver des fruits, des légumes, installer un poulailler pour des poules. On va héberger des poules retraitées, installer des abeilles avec une prairie, des plantes médicinales, des aromates, faire un espace de détente. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace de liberté au-dessus du toit de là où certains d'entre nous travaillent. Il y en a même un parmi nous qui va prendre sa retraite sur le toit. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit, moi, le jour où je prends ma retraite, j'aimerais bien être jardinier ici. Et ben voilà, on va exaucer son rêve avec ce projet parce que il va pousser, on va monter la terre bientôt au mois d'avril.
Alors c'est vrai que ça a l'air anecdotique, mais c'est vrai qu'en fait, beaucoup de jardins urbains sauvent des centres-villes un peu abandonnés. On voit la fameuse ville de Détroit, qui est une ville industrielle américaine, et ça a permis de revitaliser complètement le centre-ville, ces jardins urbains. 1+1+1, ça finit par faire beaucoup. Il y a beaucoup de toits comme ça dans Paris qui sont plats, où on pourrait imaginer des choses comme ça?
Il y en a beaucoup, et puis nous, à La Poste, on est 200 000 postiers avec certains des vocations comme ça aussi de jardiniers, et on se dit que si demain on peut inspirer d'autres postiers en France, et ça commence parce qu'ils commencent à nous contacter, et pouvoir réinventer les toits des bureaux de poste ou des toits ou des espaces même autour des bureaux avec les habitants des quartiers, ça peut être assez magique.
Alors Sophie, là vous partez quand même avec une petite épine dans le pied, je me permets de vous le dire, parce que votre bâtiment, vous m'avez dit, de La Poste Chapelle, est bleu et jaune. Et le bleu et jaune ne va pas avec toutes les plantes. Vous en êtes consciente, on ne peut pas se risquer dans tous les coloris si on est en floral par exemple.
Ouais, c'est pour ça qu'on met des poules aussi, parce qu'on s'est dit que finalement ça allait rattraper le jaune d'œuf avec le jaune, ça pouvait être pas mal. Donc les œufs de la chapelle nous sauvent un peu. Et puis mettre du vert, qu'on pourra même voir peut-être du métro aérien, ça peut être aussi... un nouvel horizon.
Quelle surface vous avez là-haut?
Là, on a 700. On avait 700 et on a découvert qu'on avait 900 mètres carrés. Donc voilà, ça change un peu notre budget parce que tout de suite, ça veut dire plus de terre, plus de ce qu'on va cultiver sur but. Donc on va mettre une membrane et on va mettre une terre un peu avec de la barre de café, du compost, du broyat. Et donc tout ça a un coût. Donc voilà, on part en campagne de financement.
Ah voilà, c'est ça, c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir alors?
Nous aider sur le KissKissBankBank.
KissKissBankBank, très bien.
KissKissBankBank,
et le projet s'appelle Communauté Facteur Graines. Si vous voulez contribuer à l'instauration de jardins au-dessus de la poste du 18e et ensuite par extension sur les postes de Paris, de France et de Navarre, oui. Commençons comme ça, Communauté Facteur Graines. Très bien, Sophie Jankowski. Thomas Baumgartner va y aller de sa poche.
Absolument. Il va mettre d'un coup. Ça se
visite, ce jardin. Faites le Cyril Hanouna, donner de l'argent direct.
Oui, mais d'autres sortent en chéquier.
On vous offre Sophie, avec un peu de chance, tout ça aura lieu à partir de quand vous pourrez l'installer.
Alors, on aimerait bien monter la terre le 22 avril, parce que c'est vrai qu'en termes d'horizon, voilà, notre petit engagement, nous de Postier, nous dit que finalement, le jour des élections, c'est pas mal d'installer un jardin sur le toit.
Ou des forêts pour aller se planquer au-dessus de la poste. Merci beaucoup, Sophie Jankowski. Ça s'appelle Communauté Facteur Graines sur KissKissBankBank, c'est ça?
Oui.
J'ai fait un appel à don.
Et si vous voulez venir après, une fois que tout ça aura poussé, nous vous invitons.
Un petit vin dînatoire.
Très bien, c'est un accord marchandise.
Voilà. Non, merci. Près de toi sur un toit.
très bonne journée, chère Sophie.
Merci.
Salut. Tout petit. Sur le créole swing de Pierre Louis, on se lève dans sa bagnole, on se tape un petit peu la tête contre le toit, on a envie de danser en voiture et de lancer son volant et de le rattraper en vol. Le journal de von Schlingkrafus. Thierry Paret.
Difficile hein, dans un rappel des titres d'évoquer ce débat. Donc de 4 heures hier à la télévision, 18 minutes environ, c'est finalement le temps de parole.
Ça te fait pas peur le difficile?
Mais jamais, au contraire. Ah. 18 minutes, donc c'est finalement le temps de parole auquel aura eu droit chaque candidat à la présidentielle à la télévision hier soir pour un débat inédit. Bon, évidemment, à 11, c'était très difficile d'entrer dans le détail des programmes. Ça n'a pas été simple d'échanger de manière constructive. On retiendra quand même quelques affrontements, hein. Peut-être pas d'anthologie, mais de belles factures quand
le
même.
Le coup de pied de machin à l'autre, le
c'était
coup de boule de truc
là,
à
hein,
truc.
C'était pas mal. Quand tu as craché, tiens, voilà. Alors ça n'a pas été alors on va retenir par exemple ça aurait été drôle qu'il y en ait un qui fasse ça.
Et puis c'est lui à un moment qui a mordu le je peux pas donner de nom mais à un moment il a eu un mordu l'autre et il a dit tu vas voir ce que tu veux, je vais te
la caméra était pas ouais c'est
était pas là.
Bon on va pas rentrer dans le détail, on vous laisse aller jeter un œil quand même. Voilà, en tout cas à l'issue de ce débat, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été jugé le plus convaincant par 25% des Français, c'est un sondage Elabe. Viennent ensuite Emmanuel Macron 21%, François Fillon 15, Marine Le Pen 11, Benoît Hamon 9, les autres candidats sont plus loin derrière.
Et encore Juppé 7%, le genre
voilà, incompréhensible. 1 million d'affiches officielles des candidats à la présidentielle rassemblées dans un immense hangar situé à Gonesse dans le Val d'Oise doivent être acheminées pour être collées près des mairies et bureaux de vote dès lundi prochain, qui sera la date qui va marquer en fait le démarrage officiel de la campagne présidentielle. La mobilisation des Guyanais, elle monte en puissance. Après 2 semaines de grève, ils ont pris la décision hier d'occuper le centre spatial de Kourou. 58 morts, c'est le bilan du raid aérien qui a frappé hier la localité de Khan Cheikhoun en Syrie. Une frappe au gaz toxique présumé. Le bilan, il pourrait être beaucoup plus lourd. Certains évoquent 100 morts et des centaines de personnes touchées par ces gaz toxiques. En tout cas, la France, la Grande-Bretagne et les USA ont présenté ce matin une résolution à l'ONU condamnant cette frappe chimique, cette attaque chimique, en appelant à une enquête complète. L'auteur de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en Russie serait un homme originaire du Kyrgyzstan qui aurait acquis la nationalité russe et c'est le même homme qui aurait aussi déposé la seconde bombe désamorcée dans une autre station de ce même métro. Le dernier bilan de cette attaque, il fait état de 14 morts. C'est un combat de longue date que mènent plusieurs associations de défense des animaux. Un combat qui était censé franchir un cap hier avec la mise en application d'un nouvel arrêté pour encadrer davantage le fonctionnement des delphinariums en France. Les dauphins et leurs défenseurs attendront puisque le gouvernement a décidé de reporter l'application de cet arrêté pour organiser un nouveau tour de table. Un acheteur vient de s'offrir aux enchères à Hong Kong pour la modique somme de 71,2 millions de dollars. Un diamant rose, gros comme une prune, baptisé Pink Star. Ce diamant a battu le record mondial tout simplement pour une pierre vendue aux enchères. Les enchères, elles ont débuté à environ 56 millions de dollars et la vente elle a duré 5 minutes.
Il est là, le diamant, il est superbe, il est de toute beauté, le diamant est là. Jean-Claude Gudin, vous êtes chargé de faire circuler les belles pierres à travers les foyers français et les radios. Vous nous avez apporté ce diamant.
Il est là.
Il n'est plus là.
Qui l'a volé?
Attendez. Non, c'est pas drôle là.
Attendez.
Il était là.
Ouais.
Jean-Claude Gudin l'avait apporté.
Moi, je l'ai, Alors au final, on essaie de le retrouver.
Heureusement qu'on est assuré.
Finissez le jeu.
Fréjus Saint-Raphaël est éliminé de la Coupe de France de football. Le club a été battu hier soir 1-0 par Guingamp. Et en quart de finale, donc élimination également de Lille qui se déplaçait à Monaco. Les Monégasques se sont imposés 2-1. Ce soir, suite des rencontres avec le PSG qui se déplace à Avranches et Angers qui reçoit Bordeaux. Et puis, l'aspiration, c'est un phénomène physique bien connu, hein, des cyclistes, mais un coureur suivi de près par un véhicule, voiture ou moto, peu importe, en bénéficie également. Deux études scientifiques dévoilent ce dopage aérodynamique et appellent à une réglementation plus stricte.
Ahmed Khelif n'est plus là non plus.
Mais...
c'est bizarre. Un diamant n'est plus là et un garçon originaire d'Afrique du Nord est sorti en même temps. C'est quand même un tout petit peu bizarre. Édouard Grignac de Radio Courtoisie. Je ne dis rien, je constate les faits. Il y a ici quelques minutes, il y avait un très beau diamant, un joyau des collections françaises depuis plusieurs centaines d'années. Il y avait là Atmen Khelif, un comédien d'origine d'Afrique du Nord. Les deux ont disparu en même temps. Alors, Météo de...
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, mademoiselle, il y a de la joie. Du ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Alors aujourd'hui, ce sera la fête de la fille de Ptolémée et de Thaïs. Les Irènes, les Irénées, les Irénas. Les températures seront de Agen de 6 à 18, Avignon de 10 à 20, Boulogne-sur-Mer de 7 à 12, Clermont-Ferrand 6 à 14, Évreux de 6 à 15, Melun de 4 à 16, Montpellier de 11 à 21, Poitiers de 6 à 16, Paris de 6 à 16, Saint-Étienne de 4 à 14. Il fait bon partout, il y a du soleil, des nuages et des froufrous. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, mademoiselle, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
C'était la météo de Tito sur Radio Nova. Tout va bien, attachez vos ceintures, on part retrouver Jack Souvent dans les rues.
Je peux le faire de là ?
Vous pouvez rester là, oui.
À Cayenne, il fait combien ?
Attendez, attendez, je suis pas en situation.
Attendez, parce que Edouard me prend ma place.
Allô, Jack ?
À Cayenne, il fait combien ? Parce qu'on a oublié encore Cayenne et Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.
Oui, je ne peux pas citer toute la France. La France dans son unicité, sa diversité...
cette belle France outre-mer.
La France de Paris à Cayenne, de Fort-de-France à Tourcoing, la France.
Hein, c'est impossible.
S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes au Diamant, en Martinique, là, au trait de la Coulée
Douce? Eh ben non, je ne le vois pas d'ici, parce que c'est une belle plage, le Diamant, mais j'ai été attiré par un mur qui m'a scotché. C'est un lierre digital.
C'est l'histoire de votre vie, être attiré par les murs. Oui.
J'espère pas. Mais en tout cas, c'est un lierre digital qui capte les ondes à haute fréquence et qui remet ça sur un dessin.
Remet ça sur un dessin, en fait. Ça met l'esquisse. Donc, c'est une œuvre de Stéphane Perrault.
Mais pourquoi il fait
ça, ce mur ? Voilà, qui capte les ondes à haute fréquence de tout ce qui est téléphone, satellite, etc. Et qui redessine ceci, en fait, sur un écran digital.
Donc, ça pirate les ondes.
Exactement, ça pirate les ondes. Et en fait, il y a une œuvre, du coup, pendant 365 jours, une œuvre différente. Ensuite réunis dans un petit livre.
Mais pourquoi il a fait ça, Stéphane Ferro?
Parce qu'il a fait ça pour un hôtel, en fait, et c'est une œuvre, il est très basé sur le digital, etc. Donc ça l'a toujours intéressé de pirater les ondes, et il voulait transmettre ça sur un dessin.
Alors parfois il y a des murs végétaux. Quelle est la différence entre un mur végétal et un mur digital?
Eh bien, la différence, déjà, c'est que c'est plus écologique. Non, c'est juste que notre mur digital, lui, il est doré et il n'est pas vert.
Il parle ?
Il ne parle pas, mais il parle par son dessin.
En quelle langue il ne parle pas ?
Il ne parle dans aucune langue. Il ne s'exprime qu'à travers son dessin. Ouais.
Ah, c'est beau, c'est
En fait, on voit l'œuvre et puis alors on s'approche chez un hôtel. Il faut rentrer dans votre hôtel pour voir l'œuvre se dessiner sur un écran.
Exactement, il faut rentrer dans l'hôtel pour voir l'esquisse... dessiné tout au long de la journée sur notre hôtel.
C'est où cet hôtel ? Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle le Drawing Hotel et c'est 17 rue de Richelieu.
Ah bah essayez d'y aller à l'œil.
J'ai essayé, je me suis dit tiens, je me réveille chez vous un matin puis je pars d'ici.
Et en plus, okay. Vous pouvez dire je bosse à la radio, c'est intéressant pour vous, je pourrais dire le nom, allez hop, chambre à l'œil.
Bah, je vais essayer, il y a une suite là, parce que les chambres sont dessinées par des artistes aussi.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a un concept assez original.
Je crois que c'est bon là, je vais l'avoir la chambre.
Donc en fait, chaque étage a été investi par un artiste qui a eu carte blanche pour s'exprimer sur les murs du couloir. C'est vrai que souvent les murs de couloir d'un hôtel sont
verticaux.
sont verticaux, exactement, mais sont surtout très banales.
Je crois qu'il y a un artiste qui travaille sur les yaourts. Oui. Il y a un artiste qui travaille sur les yaourts. Il y a une...
Oui, regarde, vous avez raison. Il y a la chambre yaourt.
Une chambre en fromage blanc avec...
Oui, oui.
C'est une chambre qui s'est un peu lécaillée ce matin. Mais dites-moi, vous-même, il est arrivé dans votre chambre et vous a dit « Tiens, on passe à la radio. Qu'est-ce que vous faites là, madame ?»
Je travaille là, tout simplement. Voilà, donc il est venu me demander le concept et j'ai tout expliqué.
Eh bien, c'est très gentil d'avoir pris sur votre temps de travail qui vous sera décompté, évidemment, qui ne sera pas payé ces 10 minutes que vous avez passées avec nous. On vous embrasse très fort.
La chambre yaourt, c'est dans le coin ?
La chambre yaourt, c'est la suite du cinquième étage.
On y va.
Allez, allez, mon petit produit laitier, à tout à l'heure.
Ciao.
7h, 9h, plus près de toi.
Alors quand même, hier soir, on a eu droit à cet objet politique et télévisuel non identifié, qui était un débat à 11 candidats étaient, oui. étaient en arc de cercle hier à la télévision pour parler de leur projet, se présenter. Arnaud Vivian, vous allez nous en parler, vous les avez regardés. Ahmed Kelly, vous avez regardé ça aussi.
Oui, 4 heures de débat chez moi, alors j'ai allumé la télévision, mais j'ai commencé à regarder le préambule du débat. Hein, où les gens s'installent, se parlent un peu au début, où on a vu Macron aller chercher Poutou qui ne voulait pas être sur la photo, alors tout le monde était là. On a vu quelque chose d'assez bizarre, les grands candidats étaient entre eux en train de parler, les petits étaient entre eux, n'osaient pas les... On a vu déjà des clans s'installer, c'était déjà assez drôle avant le débat. Et puis le débat a démarré, dans une espèce d'ambiance de jeu télévisé, question pour un champion, le maillon faible. Non, le studio était un peu petit, moi je trouve. Et c'est parti. Et on a vu un truc ben, tout beau, tout nouveau, quoi. C'est-à-dire, ou tout nouveau, tout beau. C'était les 6 candidats qu'on n'avait pas vus, qui avaient du mordant, qui y sont allés. On a vu un Dupont-Aignan un peu moins bête que d'habitude, un peu plus véhément. Il faisait moins vieux, il faisait plus jeune, plus nouveau. Bon, les autres ont commencé à prendre une stature présidentielle. On va dire que Macron, Fillon était tout droit. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la salle, comme tout le monde. Pour Poutou, qui est arrivé un peu comme Balavoine, entre Balavoine et Renault, en train de gueuler ses petites phrases, très très rapidement, un peu comme la météo Tito.
Dès qu'on a l'air d'être en dehors du coup, tout à coup, il y a un petit coup de sympathie.
Il y a un petit coup de sympathie, oui. Mais parce que les autres sont déjà en posture présidentielle. C'est-à-dire, les gens, ils sont déjà en train de prendre des pauses. C'est pour ça qu'on a trouvé le discours, je trouve, de Marine Le Pen un peu plus fade, un peu moins mordant. On a gardé quand même le one-man show de Mélenchon qui, de temps en temps, faisait des œillades à tout le monde en disant « Oui, ben moi, ça, je l'ai dit avant, ou ça, je le sais le faire, ou ça, à un moment donné. » Il n'avait même plus besoin de faire des mots en tant qu'acteur. Il faisait des œillades à la caméra. Et d'ailleurs, même, c'est le seul, quand il a fait son préambule, n'a pas parlé à la caméra. Il a parlé aux autres, et ça, c'était assez beau, comme s'ils étaient aussi des Français. Tous les autres se sont adressés à la France, mais Mélenchon a fait un truc, il a parlé aux autres. Mmh. Vous êtes aussi les Français qui allaient voter pour moi. Il les avait déjà mis dans sa poche. Et c'était assez extraordinaire.
Mmh. Alors Arnaud Vivian, on vous reçoit ce matin à plusieurs titres. D'abord, vous êtes rédacteur en chef de la revue Charles, qui est une revue politique, dont le numéro 21 vient de sortir. Il est en kiosque aujourd'hui. Il y a une autre manière de parler de la politique. Enfin, c'était, je crois, le projet initial de cette revue aux éditions Latengo. Mmh. Et puis, vous êtes aussi candidat. Vous avez annoncé votre candidature aux élections législatives, donc ça, c'est un peu plus tard, dans le 18e arrondissement de Paris. Et vous avez regardé avec ce triple œil le débat d'hier. Est-ce qu'il y avait un esprit, justement, de revanche des petits candidats après le débat à 5 qui avait été critiqué du fait qu'il n'y avait que 5 candidats et là tout le monde était là?
Ah oui, c'est pas un esprit de revanche, peut-être pas, mais il y avait une joie. Il y avait vraiment une joie des petits candidats à être là. Contrairement aux grands qui se disaient qu'est-ce qu'on fait, encore un débat de plus, etc. Il va falloir se répéter sur les mêmes sujets. Les petits étaient vraiment enthousiastes et c'est leur joie finalement. Mmh. Et moi j'ai trouvé ça hyper beau de voir des gens joyeux de faire de la politique. Parce qu'on pense que c'est vraiment le calvaire, il faut y aller à fond. Et là, on voyait des gens, ils étaient vraiment heureux. Nathalie Arthaud, elle était flamboyante, quoi. Le Poutou, il s'agitait dans tous les sens, il était mignon. Poutou, c'est le doudou de la politique française, quoi. Il y a un truc, on a envie de le...
Hein. Jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir, et là, je peux vous dire qu'il y aura quelques fusillés, quand même.
Il était assez, quand même...
Mais avec le sourire, quoi.
Avec le sourire, dire, ah oui, mais non, mais là...
Cheminade avait un côté un petit peu grand schtroumpf, histoire de raconter...
Asselineau, moi, c'est celui que je trouve le bleu. Il me faisait vraiment penser à mon grand-père, quoi. Le type qui connaît tous les clauses de tous les contrats européens.
Mais c'est un peu technique.
Il a fait un truc des
chiffres. Moi, je ne lui confierais pas ma fille à garder. Oui. Non.
Il a fait des chiffres et des proverbes. Des chiffres et des proverbes. Il a dit des chiffres et des proverbes chinois. Toutes les 5 minutes.
Les petits avaient l'air grands. Oui. Et les grands avaient l'air petits. Et ce qui est peut-être même la définition de la politique et de la démocratie, finalement. Hein, que chacun soit à peu près à égalité. Et là, ils étaient à égalité. Et du coup, le fait de ne pas avoir tellement de temps de parole fait qu'ils allaient à la substantifique moelle. Et quand même qu'on a compris quelque chose, je crois, hein, si on a regardé, c'était long, hein, mais si on a regardé les 4 heures, on comprenait quelque chose de la situation de la France en Europe et dans le monde. Et donc, j'ai trouvé ça quand même... Et il y avait... plus de poésie finalement que de politique hier, et du coup un éclairage totalement différent, totalement nouveau, pas dans la caricature des médias qui vous présentent toujours Cheminade comme un complotiste, tout ça. On voyait bien que c'était pas le cas, c'est autre chose finalement Cheminade. Et donc c'était vraiment intéressant.
Il y avait un conseil de classe, moi je dirais. Il y avait le prof d'agriculture qui était la salle, avec la prof de MT, tout ça. Tout. Ils étaient tous autour du coupable qu'est la France, du mauvais élève. Et chacun donnait sa note à un moment donné. Et on a eu quand même à la fin des postures de jeu, moi je trouve, quand la salle commençait à trembler à chaque fin de phrase. Ça c'était incroyable. Il commençait à parler, il a fait finir dans une émotion en tremblant, en criant, il faisait assez peur.
Alors là, des avantages aussi de ce genre de débat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de consensus mou sur les choses, qu'on peut changer des choses. Les petits candidats, eux, n'ont pas, il n'y a pas de langue de bois, ils disent des choses très différentes, des propositions pas extrêmes, enfin qu'on n'est plus habitué à entendre.
Ben oui, là, on voyait bien quand même, il y avait 8 candidats sur 11 qui sont finalement pour renverser la table en Europe d'une manière ou d'une autre. Par un Frexit, mais voilà, il faut renverser la table, il faut arrêter avec ces traités qui nous condamnent à des politiques d'austérité. Donc là, c'était assez clair et chacun définissait la manière de faire.
Alors là, vous avez glissé du commentateur au candidat à l'instant même, Arnaud Vivian.
Oui.
Comment ça se passe? Comment on décide en tant que journaliste, écrivain, un jour, de dire bah, moi, je vais me présenter aux élections et avec quels moyens et avec quelle ambition?
Alors, les moyens zéro, quelle ambition assez grande. Pourquoi? Parce que je suis contre la professionnalisation de la politique. D'ailleurs, il en a beaucoup été question hier, l'air de rien dans le débat. Tout le monde est contre la professionnalisation de la politique. Il faut arrêter avec le cumul des mandats. Il y a plein de choses qu'il faut arrêter. Et donc, si vous êtes contre la professionnalisation de la politique, il faut que des non-professionnels se présentent. Donc, par conséquent, voilà, le meilleur moyen de faire, c'est de montrer l'exemple. Donc, j'ai voulu montrer l'exemple en me présentant dans ces législatives qui, à mon avis, sont une fenêtre historique pour faire bouger la politique en France.
Ce sera le rendez-vous là, du mois de juin, ce sera le moment où ça va vraiment changer.
Oui, absolument. Quel que soit le gagnant ou la gagnante de cette présidentielle, législatives vont être le véritable moment clé, parce que maintenant, c'est une élection à 4 tours. Et donc, il faut, à mon avis, d'ailleurs, je le dis, il faut se présenter. Je veux dire, c'est pas simplement moi, mais des gens dans une démarche non professionnelle doivent se présenter. C'est compliqué et pas compliqué, hein.
Ce sera quoi votre slogan?
C'est un regard pour la France.
Vous dites un slogan, vous ne dites pas un programme. Voilà.
Bah parce que pour eux, on a que 3 minutes, alors que pour un slogan, c'est beaucoup plus court. Mais
non, c'est le slogan qui sera sur l'affiche, un regard pour la France. Parce que précisément, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au Parlement pour parlementer, pour regarder, pour voir ce qui se passe. Parce que je crois que c'est la fonction, finalement, du délégué. Nous sommes des délégués, les parlementaires sont des délégués des citoyens, pour aller à la Chambre, voter des lois, et donc, et aussi regarder ce que disait d'ailleurs très bien Macron. Il faut regarder comment les lois sont appliquées. Ce travail d'examen, finalement, est intéressant, et donc ça, il est fait par des gens voilà, qui n'ont pas de compétences particulières.
Est-ce que ces idées-là, vous les mettez en pratique dans la revue Charles, donc vous êtes le rédacteur en chef, sachant que le point de départ, c'était, enfin, à chaque fois, chaque couverture, c'est la couverture de quelqu'un, d'un visage. Vous êtes pour la dépersonnalisation de la politique dans la revue.
Non, la déprofessionnalisation n'est pas forcément la dépersonnalisation. C'est déprofessionnaliser qui est intéressant. On a fait un numéro très rapidement, parce qu'on existe depuis 5 ans, qui s'appelait Après la politique, justement pour voir comment les politiques s'étaient recyclées. Des gens comme Jospin, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Donc la couverture, c'était Jospin en train de jouer au tennis. Mais voilà, il y a une possibilité, il y a une autre vie après la politique. Contrairement à ce que la plupart des politiciens et des politiciennes ont l'air de penser, il y a une autre vie. Et donc, je crois qu'à partir de là, il faut que des gens investissent la politique hors parti et de manière non professionnelle. Et
c'est vrai qu'il y a pas mal de figures de la société civile maintenant, que vous mettez en avant dans la revue.
Oui, bien sûr.
De gauche et de droite, hein, de partout.
Oui.
Arrêtez de vous engueuler, Alors la revue Charles, c'est en vente
même
là.
Même temps, aujourd'hui.
C'est en kiosque.
Elle vient de sortir aujourd'hui. Ouais.
Voilà, vous présentez aux législatives un nouveau regard pour la France avec des lunettes que vous portez là sur vous, dont vous expliquerez hors antenne le rapport entre cette métaphore et vous-même, vos problèmes de vue. Les débats, c'était hier, les élections, c'est bientôt.
On a fait le tour.
Salut, merci beaucoup.
Merci,
salut.
7h, 9h, plus près de toi.
Tu pars là à la campagne, Ilias?
Oui.
Dans combien de temps tu pars?
Quelques jours.
Pour les vacances. Et c'est toi qui fais ta valise ou pas?
Ben, je le fais avec ma maman.
Et quand tu dis avec, t'as l'impression que c'est toi, elle l'a fait, puis tu dis oui, c'est bon? Parce que souvent, c'est un peu une arnaque, le côté « je l'ai fait avec ma maman », non ?
Non.
C'est vraiment toi qui choisis tes trucs et qui les mets dans le sac ?
Oui, plutôt.
Moi, ça sent un peu l'arnaque, mais je t'en veux pas. Alors aujourd'hui, tu nous dis un texte de poème qui s'appelle « La chanson de la Seine ».
Oui.
Alors, raconte-moi cette histoire de la Seine. Alors ?
Je le dis ?
Ouais.
La Seine a de la chance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit, sans sortir de son lit. Et sans se faire de mousse, elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et quand elle se promène, tout au long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce, le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve, au milieu des mystères, des misères de Paris.
Les mystères et les misères de Paris. Bravo Elias, merci beaucoup.
C'était incroyable.
Jean-Noël Mistral, hein, souvent des poèmes de Prévert sont dits, là, et Elias l'a bien dit là.
Il a une voix vraiment scintillante, une voix éclatante, qui vraiment réchauffe quelque chose, le cœur ou le pancréas, enfin quelque chose de
l'intérieur. Oui, parce qu'on peut être réchauffé par la voix comme un petit radiateur sonore.
Oui, tout à fait. C'est pas un pleur que j'ai eu, j'ai même pas eu une extase, j'étais bien.
Et puis une envie de courir, courir, courir et d'être flagellé
par des valises, de faire des valises, de faire le ménage.
Un grand ménage à la Jean-Noël Mistral.
Bien sûr, c'est juste épousseter les feuilles.
Parce que la saleté n'est pas la saleté des autres humains. Vous parlez souvent de saleté morale ou de...
Je parle de saleté morale souvent, bien sûr.
Pureté de la terre. Là, vous êtes recouvert de terre et de feuillage sur votre corps qui n'a pas été livré à l'agression des eaux depuis très longtemps. Il n'y a pas
eu
d'eau.
C'est pour ça que je brisse. Oui. Je brisse et c'est pour ça que ma peau est grasse.
C'est de l'argile qui est sur votre peau.
C'est de l'argile qui est sur moi.
Il n'y a pas que de l'argile. Là.
Non, là, il y a des lichens. Si vous voyez sur les sourcils, il y a des lichens.
Tous les sens sont, parce qu'il n'y a pas qu'à... Qu'au regard, qu'on est frappé, il y a l'odorat, enfin beaucoup de sens.
Bien sûr, parce que je me lave.
L'eau n'est pas votre ami, c'est le tétien de vos
recueils. L'eau est mon ami, mais pas disons quelque chose qui est là pour me purifier. L'eau, c'est mon ami, c'est elle qui m'hydrate.
Oui, hein. Vous lui serrez la louche, vous lui dites ça va l'eau et toi.
Ça va l'eau, et puis bon, voilà, puis après on se sépare, et puis on se voit la semaine prochaine.
On vous écoute dans le poème avant les infos.
La rivière coule, coule.
Ah oui.
La rivière coule, coule, et les branches d'aubépine, là-bas, effritent l'horizon.
C'est superbe.
Bien beau, ça. La rivière coule, coule, et la forêt d'ordinaire si bruyante a cédé la place au silence. On n'entend pas le bruit de l'eau, et pourtant, elle recouvre tout. Et une faute, là, puisque j'ai dit le bruit.
Ah oui, je crois que c'est exprès.
Coule, coule la rivière, et de sa présence de longue et douce femme géante, m'enrobe d'une sorte de respect idiot. Car la profondeur de ses eaux est plus profonde qu'un œil.
De toute beauté.
C'est beau ça. Même le canard font des coins-coins timides. Ils le font des demi-coins, seulement des coins. Alors, quand je suis là, je pense. Et puis souvent, j'en profite pour me regarder dans la rivière et dans les eaux.
C'est bien observé ça.
Alors là, tout disparaît. Je suis ému par ce que je
sens. Oui, oui.
Enfin, devant moi s'ouvre le plus important des choses, c'est-à-dire moi. Mais qui suis-je en ce bas monde ? Suis-je heureux ? Suis-je beau ? Suis-je d'accord avec moi ? Enfin, à quoi je sers-je ? Et là, je peux rester des heures à penser à moi. Moi quand je dors, moi quand je mange, moi quand je regarde caché, installé derrière un taillis, passer les voitures, moi quand je nourris les belettes, moi quand je cherche des murs, moi quand je parle à des dames que j'ai enlevées, moi quand les chiens des chasseurs me prennent pour une biche et que je suis chassé à court.
Vous avez enlevé des dames ? C'est une licence poétique.
Alors, ce n'est pas que je me trouve beau, mais je suis aimanté par l'importance de ce moi qui me parle. Alors je me dis, alors tu es content, tu es bien avancé maintenant, oui tu es libre, oui ah, tu es gambade, mais
gros malin,
tu es bien solitaire. Alors, ah oui, à quoi ça te sert d'être libre si c'est pour supporter autant de solitude ? Alors, là, soudain, mes larmes jaillissent de mon œil et remplissent la rivière. Et je sens qu'elle me dit, mais non, ça va, ne t'inquiète pas, Jean-Noël, tu es bien gentil. Alors là, je me lève et je me dis, non, c'est pas ça. Et je me dis,
C'est la fin.
Et je me dis, je retourne à mes affaires. Voilà.
Merci.
Jean-Noël Mistral.
Mais Jean-Noël Mistral, avec Ilias, ça t'a plu ?
Oui.
Ah oui. Tiens, comme des goûts, des couleurs. À tout de suite.
18 minutes environ, voilà, c'est finalement le temps de parole auquel aura eu droit chaque candidat à la présidentielle à la télévision hier soir pour un débat inédit. Hein. Alors évidemment à 11, c'est très difficile d'entrer dans le détail des programmes, ça n'a pas été simple d'échanger de manière constructive, on va dire. On retiendra quand même quelques affrontements, voilà, par exemple entre Philippe Poutou d'un côté et François Fillon et Marine Le Pen de l'autre sur les affaires. Autre exemple entre Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur la question de la suppression ou non de la directive européenne sur les travailleurs détachés. Il y a eu aussi des échanges tendu, musclé sur les fonctionnaires entre les candidats qui souhaitent les réduire et ceux qui au contraire souhaitent les augmenter, hein, tels François Fillon ou encore Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Marine Le Pen aussi à la fin, qui défendait les crèches de Noël dans les mairies en rappelant à la candidate FN que 60% des Français n'en avaient que faire des religions. À l'issue de ce débat, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui a été jugé le plus convaincant par 25% des Français selon un sondage Elabe. Viennent ensuite Emmanuel Macron 21%, François Fillon 15%, Marine Le Pen 11%, Benoît Hamon 9%, les autres candidats sont plus loin derrière. 1 million d'affiches officielles des candidats à la présidentielle rassemblées dans un immense hangar situé à Gonesse dans le Val d'Oise en région parisienne doivent être acheminées un petit peu partout en France pour être collées près des mairies et des bureaux de vote dès lundi prochain, qui sera la date qui va marquer le démarrage officiel de la campagne présidentielle. La mobilisation des Guyanais, elle monte en puissance. Après 2 semaines de grève, ils ont pris la décision hier d'occuper le centre spatial de Kourou pour protester contre les sous-investissements de l'État. A priori, pour l'instant, le gouvernement n'a toujours pas réagi, donc aucune raison que la situation évolue aujourd'hui. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique en mer du Japon. C'est une info confirmée par les États-Unis. Les États-Unis qui, aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France, ont présenté une résolution à l'ONU ce matin pour condamner l'attaque chimique en Syrie hier et demander l'ouverture d'une enquête complète. 58 morts, hein, c'est le bilan provisoire de ce raid aérien qui a frappé hier la localité de Khan Cheikhoun en Syrie, une frappe au gaz toxique présumé. L'hôpital où les blessés étaient pris en charge a en outre été bombardé aussi. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité donc a eu lieu ce matin. L'auteur de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en Russie a été identifié. Ce serait un homme d'origine originaire du Kyrgyzstan et qui aurait acquis la nationalité russe. C'est le même homme qui aurait déposé la seconde bombe désamorcée dans le métro. Le dernier bilan de cette attaque fait état de 14 morts. C'est un combat de longue date que mènent plusieurs associations de défense des animaux. Un combat qui était censé franchir un cap hier avec la mise en application d'un nouvel arrêté pour encadrer davantage le fonctionnement des delphinariums en France. Les dauphins et leurs défenseurs attendront, hein, puisque le gouvernement a décidé de reporter l'application de cet arrêté pour organiser un nouveau tour de table. Un acheteur vient de s'offrir aux enchères à Hong Kong pour la modique somme de 71,2 millions de dollars, un diamant rose gros comme une prune baptisé Pink Star. Ce diamant, il a battu tout simplement le record mondial pour une pierre vendue aux enchères. Les enchères ont débuté à environ 56 millions de dollars et la vente, elle a duré seulement 5 minutes. L'acheteur était au téléphone. Sans surprise, Fréjus Saint-Raphaël est éliminé de la Coupe de France de football. Le club a été battu hier soir 1-0 par Guingamp en quart de finale. Élimination également de Lille qui se déplace à Monaco. Les Monégasques se sont imposés 2-1 suite des rencontres aujourd'hui avec le PSG qui se déplace à Avranches. Et puis dans l'autre rencontre, c'est Angers qui reçoit Bordeaux, le choc.
Avranches, c'est bien.
Avranches, c'est bien ?
Oui. Okay. C'est où Avranches ?
Oui, c'est ça. C'est ça la bonne question. C'est où Avranches ? Ah, il n'y a plus personne là. Hein.
Bonjour. Des plumes. Bonjour. Très belles arrivées.
Bravo.
Vous êtes en campagne.
Oui. Bonjour à tous.
Bonjour. Enfin, quelqu'un s'intéresse à nous.
Bonjour.
Bonjour.
Cher ami.
Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. On parle où ? C'est ça le micro. C'est très facile. Voilà. Bonjour. C'est très bien, c'est bien achalandé ici.
Bien habillé,
en tout cas, on est proche de vous, on est avec vous. Hein,
est
donc pour vos augmentations, je vais faire monter le acquis de droit. Alors pour le moment, c'est en stand-by, c'est un statu quo.
Ah, m'avait remarqué.
Je me bats à vos côtés. Là, je pars en vacances. Merci pour ce petit café. Comment s'appelle-t-il, lui ?
Il s'appelle Arnaud.
Très bien, il est très
on
bien.
Il s'appelle Nono.
Très bien.
C'est Nono.
Alors voilà, donc tout est arrangé. Bon, vous ne serez pas payé cette année, mais en tout cas, je peux vous dire que là-haut, vous êtes très apprécié. On part dans les rues avec Jacques souvent un peu de rondeur.
Mais ici, c'est incroyable, il y a des œillets qui côtoient le persil, il y a des tulipes avec du basilic.
Vous êtes en prison ?
On dirait des petits champs, Monji.
Oui, c'est ça, on dirait des petits champs, oui, au 29.
Voilà, et vous m'avez dit, donc on est chez un épicier qui est absolument génial, et il m'a dit, plus près de chez nous, on a Valérie Lemercier, on a Marc Lavoine, on a des gens comme ça qui viennent.
Oui, tout à fait.
C'est un quartier où beaucoup de gens spectacles sont attirés par ça, par les plantes, la nature. Là, vous avez parlé de beaucoup de plantes.
Oui, monsieur.
Et
oui.
Il y a beaucoup de jardins dans ce quartier, monsieur.
De quoi?
Des jardins.
Des jardins, ben, le jardin de Palais Royal, oui.
Ah, le jardin de Palais Royal. Et là, il y a des plantes, des légumes, des fruits. Qu'est-ce qu'il y a comme...
On fait tout, nous.
Ah oui.
Y compris les fleurs et les plantes, quoi.
D'accord, donc vous faites en... Oui, moi j'ai pas de...
Oui,
mais... Il y a des chocolats, Champs-Élysées... De...
C'est quel quartier?
J'ai pas des, dis donc.
Oui, on est rue des Petits Champs. C'est le premier et deuxième arrondissement. Ou la Bibliothèque Nationale.
J'ai la Bibliothèque Nationale.
Vous voyez où c'est?
Ouais.
Ou la Banque de France aussi, Place de la Victoire.
Alors là, il y a les livres, et puis l'autre, il y a les réserves d'argent...
Voilà, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a les acteurs.
Ici, il y a à manger.
Il y a à manger, il y a à boire.
Il y a à décorer.
On y danse après, on y mange très bien. Et
très bien.
Pour une modique somme, après, il y a... Et puis alors, ensuite, Michou envoie ses transformistes. Et puis ça y va, et c'est la fête à mon... C'est la fête à mon cul, excusez-moi.
Vous êtes amis, en plus, toute l'année, 7/7.
J'ai l'impression que c'est la gaudriole, quoi. C'est... Hein. Bon, ben merci pour cette petite publicité, monsieur. On viendra tous de votre côté.
Voilà, au 29 rue des Petits
Champs. Oui, on y...
C'est
au 29 rue des Petits Champs. On y mange très bien, on y rit beaucoup, on y danse après. Le meilleur de Jean Roucasse, Michou et ses michettes. On y pète de rire à se faire péter la sous-ventrière. Ça, c'est Paris, ça, c'est Paname. Les petites femmes, le froufrou, les transformistes, les élections. Et allons-y, un petit coup derrière la cravate, encore avec les moches noires. On passe la fin des Petits Champs. Allons-y, messieurs, les bébés, un petit peu, je vous mets quand même. Ils sont beaux, mais longs, ils sont roux. Allons-y. Ça, c'est les miens. Oh, la coquine. Elles sont à vous, ces belles miches. Ça, c'est Paris. Ça, c'est chaud. Chaud devant, je tâche. Une autre côte garde. Une choucoute de j'en ai rien dans une. Eh, vas-y, Polo, c'est pas mon cul, tiens. C'est pas ta mère. Allons-y, tu vas bouger, du coup. Eh, alors, ton 3 tonnes 5, je vais te le garer, moi, dans ta gueule. Et ma gomme, elle passe le sourire. Tu veux en tâter. Ça, c'est Paris. Ça, c'est madame. Et les petits chats. Et les petits chats. Et ça y est, allez. Mouloudji, allez. Élection. Piège à con. Salut. Ouf. Pause.
7h, 9h, plus près de toi.
Le printemps est arrivé. Est-il arrivé partout dans notre bel hexagone? Est-il arrivé de la même façon, suivant qu'on habite à Sedan ou à Perpignan? C'est ce qu'on va savoir tout de suite.
L'état de la France.
L'état de la France, oh, tu parles.
À Montpellier, Kamel, grossiste en fruits et légumes bio, comment est arrivé le printemps? Le ressentez-vous dans votre chair et votre sang?
Allô, Edouard?
Ah oui, mais moi je pensais dans l'énergie totale, ma question, paf journalistique et paf... Non. Oui, Kamel, vous allez bien?
Oui, ça va.
Comment ça se ressent là, à Montpellier, l'ambiance printanière?
C'est même plus le printemps, on a l'impression qu'on a carrément sauté le printemps, on est pratiquement l'été.
C'est l'été. Ouais, dans l'été. Les t-shirts, dans les maillots?
T-shirts dans les maillots, petits shorties, petites robes.
Alors ça, c'est toi, les petites robes et tout ça, c'est ta vie à toi, d'hétéro-transformiste. Mais est-ce que donc tu veux dire que pour l'œil, c'est comme dans les théories des films de Truffaut, les femmes auraient hiberné et tout à coup, elles ressurgiraient au printemps?
C'est ça. Elles sortent tout l'attirage de l'été. Par contre, le soir, on revient à l'hiver. Le soir, il fait un peu frisqué, mais c'est vrai que c'est agréable de ressentir cette chaleur et surtout de voir les gens tout bronzés, tout souriants.
Est-ce que ça se sent dans les conversations? Est-ce qu'il y a, tu trouves, par exemple, à Montpellier, il y a des conversations de printemps qui ne sont pas des conversations d'hiver? Est-ce qu'il y a des nouvelles conversations qui arrivent avec la chaleur?
Ouais, mais déjà, viens, on va boire un coup à la plage. Déjà, ça change. Que tu dis, viens, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Tu vas à la montagne, tu vas ramasser les champignons, déjà... Par rapport à nous aussi, de plus en plus, c'est plus festif. Il y a de plus en plus de petites soirées sur le bord de la plage, des apéros, on joue à la pétanque, des petits changements d'heure, un peu plus festif.
Est-ce que dans les boutiques de maillots de bain, on entend cette phrase « Si j'avais su, j'aurais moins mangé cet hiver »
Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai lu dans certains regards.
d'un certain, oui, des regrets. Toi. Quelle va être ta tenue? Quelle va être la tenue à la mode à Montpellier ce printemps, cette saison 2016-2017? Quels sont tes conseils vestimentaires pour la jeunesse montpelliéraine?
Moi, mes conseils vestimentaires, moi, je pense, chacun fait comme il veut, s'il se sent bien tout nu, ou s'il se sent bien habillé, ou s'il se sent bien dévêtu. Après, chacun, voilà, des petits vêtements, on va dire, amples, pour pouvoir être tranquillement dans...
Pour pouvoir inviter quelqu'un dans le vêtement, oui. Pour
oui, deux, voilà.
Merci pour cet apport, en tout cas, Kamel. Hein. On peut parler du nu, le tout nu de soirée, qui est quelque chose qui est très agréable. Ça fleurait bon le printemps, du coup. Il y a Atmen qui me fait des signes.
Oui, je voulais lui demander, est-ce qu'il est toujours aussi musclé, Kamel?
J'entretiens ça, ouais. J'essaye.
Parce que c'est beau à voir, en fait.
Tout de suite, je reçois. C'est bien. Ça fait plaisir des compliments entre garçons. Moi, ça
bah oui, mais quand même.
Jamais vous ne m'en faites un. Moi, rien. Rien. Pas ça. Mais... Merci, Kamel. Vous saluez Hakim et Marius et tous les gars de MK Bio.
D'accord. Ok, d'accord.
On a parlé météo, on a parlé rythme des saisons. Je suis avec le professeur Cabos. Des nouvelles de la fin du monde, professeur Cabos?
Bah oui, on s'aperçoit aujourd'hui que la fin du monde va bientôt et assez proche.
Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des lieux d'hébergement? Est-ce qu'on a des transports recommandés?
On a prévu, c'est pas sûr, hein, y a 75% de chances que ça soit pas... ça, mais on a prévu demain à 15h30.
Demain à 15h30, est-ce que le pays est préparé d'un point de vue d'accueil déjà et de tourisme? Est-ce qu'au niveau du panel...
Ben ça fait longtemps que j'essaye d'alerter les sénateurs et les députés pour justement installer des infrastructures.
Alors c'est vrai que ce n'est pas facile de faire entendre votre parole parce que vous présentez que c'est entonnoir sur la tête qui ne vous fait pas ouvrir les portes des administrations.
Je n'ai pas fini ma phrase, vous m'avez coupé.
Oui.
Vous m'avez coupé.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je me préfère mes questions à vos réponses, d'accord, comme beaucoup de gens dans les médias.
Je comprends.
Voilà. Vous voulez nous chanter une chanson, professeur Cabos?
Pas vraiment moi, mais j'ai ma sœur qui est là, qui est justement...
Oui, elle est là.
Qui cherche un travail à la radio.
Elle est en vous.
Quoi?
Elle est en vous, votre sœur.
Pourquoi vous dites ça?
Lisez mon livre sur la psychanalyse, la schizophrénie. Tout. Allez-y. Bonjour, madame.
Bonjour.
Quelle est votre chanson?
Je préfère pas dire le titre.
D'accord.
Parce que...
Il y a un vrai apport à l'auditeur, le service à l'auditeur.
Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-
chouchou coucou. Et moi souvent je réponds couchou youkou chouchou 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 chou. Refrain. Couchou chou chouchou 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 chouchou.
Merci, professeur Cabos.
C'est pas fini.
À un moment de la chanson, vous dites tout le monde dit de moi je suis coucoucou chouchou, mais qui dit ça?
Ben, tout le monde. Enfin, c'est fou quand comme vous écoutez pas ce que je dis, parce que je dis tout le monde, c'est quand même clair, tout le monde, c'est les autres.
Mais quelles sont les preuves que moi je n'ai pas entendu des gens en vous voyant dire elle est coucou chouchou coucou?
Ben, faites-moi confiance, je vous dis quelque chose, vous avez essayé de me faire confiance. Si.
J'ai appris des trucs, j'ai été ému, c'est bon, c'est rempli,
c'est vendu,
la mission est remplie. Merci.
J'entends pas le bruit des billets.
Il manquait un feu quand même et des chamallows. Hein.
Un feu, des chamallows, voici maintenant Marie Missé dans un tout autre genre.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Pourtant j'avais prévu de la faire en
musique. Tout le monde dit c'est couchouchou. Ah oui, j'ai du mal, ça y est, j'ai dans la tête maintenant.
On rappelle une autre chanson de Fred Touche.
Ah
oui. Oui, mais celle-là, c'est...
Pardon, Marie, buvez un tout petit peu d'eau parce que je sens que vous êtes partie pour un joli voyage.
Oui, on est parti. Alors dans la presse ce matin, on le devine, on revient sur le débat entre les 11 candidats d'hier soir, diffusé non sur une chaîne publique, mais sur CNews et BFM. Et il est étonnant de constater que malgré une sorte de reproche général adressé aux médias de ne pas prendre les candidats pas favoris au sérieux, eh bien les quotidiens nationaux foncent tête baissée dans un traitement au mieux condescendant. Les petits candidats, dit Le Parisien, goûtent le plaisir d'être là comme des grands. On en est donc carrément à les comparer à des enfants. Quand la caméra s'allume, c'est en marche, a apparemment dit Nicolas Dupont-Aignan, cité toujours par Le Parisien avec un sous-texte évident. Le petit Nicolas n'est pas trop habitué à la télévision. Dans l'édito, il est même dit « on peut penser à un nivellement par le bas ». donc du débat. Dans le Figaro, le traitement n'est pas tellement meilleur. Il titre sans complexe « Les six petits candidats ont fait leur show ». L'intérieur de l'article est un peu moins caricatural et suggère que peut-être la formule de ce débat n'est pas la bonne. Et d'ailleurs, Libé s'interroge moins sur le fait que ces candidats aient le droit de s'adresser aux grands candidats que sur la formule du débat. 11 candidats, 11 minutes chacun, et des journalistes présentes qui servent essentiellement de chronomètre et ne guident pas le débat. À 11, ça peut devenir un petit peu compliqué, ce qui mène donc à un débat que le Figaro qualifie de décousu, de grand bazar, et le Parisien de peut-être inutile. On en retiendra quand même, d'après le Parisien toujours et les réseaux sociaux, cette diatribe de Philippe Poutou sur les affaires de François Fillon, un petit marmonnement de la part de ce dernier, genre « Oh oh oh, je vais vous foutre un procès à vous hein, », qu'on a quand même entendu à l'antenne, suivi du nanafort de François Fillon toujours, la figure de style phare des débats politiques, osé donc de François Fillon, qui commençait toutes ses phrases par « un président exemplaire, c'est ». Et puis il y a cette stratégie d'Emmanuel Macron, qu'on cite dans le Figaro comme dans le Parisien, de renvoyer Marine Le Pen à ses origines.
C'est quoi une anaphore déjà ?
Une anaphore, c'est quand on commence toutes ses phrases par la même formule. Comme d'accord. Dans Rome, l'unique objet de mon...
Rempli de vin, à Rome, avec ça.
Ah ben, c'est marrant parce qu'on va en parler aussi.
Voilà.
Et donc, et Emmanuel Macron, donc, dont la stratégie est de renvoyer Marine Le Pen à ses origines, autrement dit son papa, dont elle reprend les mensonges.
Ah ben c'est vrai que c'est pas... Dès qu'on dit maintenant, c'est un truc à trouver Atman, il faut dire, plus dire Marine Le Pen, il faut dire Le Pen. Et dès qu'on dit Le Pen, ça
on
fait
entend
tout
mieux
coup,
les idées derrière.
On entend mieux qui c'est. Oui.
Et
oui.
D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le seul à vouloir rappeler que Marine Le Pen a un papa dans la croix. On a confié le portrait de cette dernière à l'écrivain Denis Tillinac, qui par ailleurs, je vous le dis, est membre de la Fondation Charles de Gaulle. Il écrit que définitivement, Marine est prisonnière de sa relation à son père. Une petite fille ne peut pas aimer une société qui a voulu tuer son père. Dans tout son portrait, il résume la carrière politique de Marine Le Pen à un gros, gros complexe oedipien et le termine par ces mots. Faire oublier sa généalogie et son drame intime. Délepeniser le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, défi d'autant plus ride qu'outre le parricide, il exige de renoncer à la fierté d'être une irrégulière.
Tillinac, c'est le vieux copain corrézien de Chirac, cet écrivain étonnant.
Un conflit interne qui devient celui du parti et explique peut-être le décompte de l'AFP du mois de janvier qui affirmait que 28% des élus municipaux Front National élus en 2014 ont démissionné depuis. Ça fait 400 élus sur 1500. Alors en parlant du passé qui empêche d'avancer, qui emprisonne un petit peu, il y a deux autres exemples dans la presse ce matin. Celui d'un passé non soldé d'abord. Dans La Croix, on nous explique qu'autour du vote pour accorder les pleins pouvoirs à Erdogan, les Turcs d'Allemagne se divisent très fortement. Des divisions qui ont été très exacerbées depuis le vote à Berlin d'une résolution sur le génocide arménien dont Centenaire a déjà 2 ans. Et puis la ville de Rome à laquelle le supplément du Monde Science réserve une pleine page pour expliquer à quel point tous travaux dans la ville se heurtent à des amphores. Atmen, des cimetières, des villas. Il n'y a pas longtemps, alors qu'on tente indéfiniment de percer cette ligne C du métro romain qui aurait dû être finie en l'an 2000, des ouvriers sont tombés sur ce qui s'est révélé être le cimetière de la communauté juive de la ville au Moyen-Âge. La découverte a été très médiatisée à l'international, pas à Rome. La force de l'habitude, sans doute. On nous raconte aussi que ces découvertes archéologiques sans fin ont commencé au XVe siècle quand un jeune homme est tombé dans un trou. Ce trou l'a mené tout droit à un complexe de 80 hectares construit par Néron après l'incendie de Rome. C'était en 64 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, 5 siècles plus tard, tout le site n'a pas encore été exhumé. C'est vous dire si la ligne C du métro romain est mal barrée. L'ironie de la chose, c'est que l'empereur Néron avait été condamné à l'oubli. Damnatio Memoria, en latin dans le texte, comme quoi on a beau essayer d'enfouir, tout finit toujours par remonter.
Formidable tracé comme ça, sinueux, elle est arrivée. Marie-Missé, les marie-missistes sont là. Et puis ensuite,
il
y a une délégation d'élus Front National qui est en train de prendre un bain. Voilà, on est bien ?
Non, on est très bien. Moi, je veux revenir juste sur Cheminade, quand il a accusé à un moment donné, dans le on parle toujours un petit peu, quand il a accusé pour la France-Afrique que tout le monde en avait croqué, il a dit à Marine Le Pen, et votre père a eu sa part. Et elle s'est offusquée, mais j'ai jamais eu d'argent. Elle s'est retournée vers les gens. C'était assez beau comme moment, voilà, sur l'argent de l'Afrique donné à Le Pen.
Oui.
Votre père en a croqué, c'était beau.
Merci beaucoup.
Plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Alors, juste après, alors on va faire le journal de Thierry Parel, rappel des titres, et après, Atmen, je vais vous dire tous les films qui sortent et vous vous déchaînez.
Allez, on y fera une.
Dans quelle mesure ce type d'exercice peut-il influer sur la présidentielle ? Difficile à dire. En tout cas, hier soir, tous les candidats, donc les 11 à la présidentielle, étaient côte à côte pour un débat inédit. Hein, chacun et chacune, ou tout l'inverse, a pu s'exprimer durant 18 minutes environ. Ils ont évoqué l'emploi, les salaires, le terrorisme, l'Europe, entre autres. À l'issue de ce débat, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été jugé le plus convaincant par 25% des Français, selon un sondage Elabe. Viennent ensuite Emmanuel Macron, 21%, François Fillon, 15%, Marine Le Pen, 11%, Benoît Hamon, 9%. Les autres candidats sont en dessous. La mobilisation des Guyanais qui monte en puissance. Le mouvement se durcit après l'échec des négociations avec le gouvernement. Après 2 semaines de grève, les Guyanais ont pris la décision hier d'occuper le centre spatial de Kourou pour protester contre les sous-investissements de l'État. Une occupation qui va se poursuivre aujourd'hui. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique en mer du Japon. C'est une info confirmée par les États-Unis. Les États-Unis qui, aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, ont présenté une résolution à l'ONU ce matin pour condamner l'attaque chimique en Syrie hier et demander l'ouverture d'une enquête complète. 72 morts, le bilan s'est alourdi. C'est donc le bilan de ce raid aérien qui a frappé hier la localité de Khan Sheikhoun en Syrie. Une frappe au gaz toxique présumée. L'hôpital où les blessés étaient pris en charge a lui aussi été bombardé. L'auteur de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en Russie serait un homme originaire du Kyrgyzstan qui aurait acquis la nationalité russe et c'est le même homme qui aurait déposé la seconde bombe qui a été elle désamorcée hein, dans une autre station de ce même métro. Le dernier bilan de cette attaque, il fait état de 14 morts. Amadou Koumé avait 33 ans. Ce père de famille est mort en mars 2015 au commissariat du 10e arrondissement de Paris suite à une interpellation difficile, musclée, dans un bar du secteur de la gare du Nord. Après plusieurs péripéties judiciaires, le policier de la brigade anticriminalité qui a procédé à une manœuvre d'étranglement pour le maîtriser a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le PSG est attendu à Avranches, en Normandie, ce soir, tandis
alors,
que Bordeaux est attendu à Angers. Ce sont les deux dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe de France de football. Hier soir, Monaco et Guingamp se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Bordeaux a battu Lille de... Qu'est-ce que je vous dis là, je vous dis des bêtises.
J'aime bien, pardon, le PSG est attendu à Avranches, je vois très bien. Ouais. Je vois le petit hôtel, l'hôtel de France à Avranches. Les lits sont faits. L'attaquant, vous le mettrez dans la 12, là. Je ne peux pas mettre deux joueurs dans la même chambre. Oh, je n'en... Les petits déjeuners, je leur fais quoi?
Des petits harangues pour moi, lui.
Oui, repas-moi ça. Regardez le H de l'hôtel clignote de quoi on a l'air. C'est très mignon, quoi. Il y a... Repeignez la rue. Où est l'adjoint au maire? Le bouquet, la petite, là. Le bouquet, tu t'avances, tu donnes le bouquet. À qui je le donne? On te le montrera du doigt. Oh, j'ai peur, je vais pas y aller. J'ai peur des footballeurs. Oh, mais quel empoté, tiens. Le gamin, là, il va me donner le bouquet. Et le maire, ben il est bourré. Bon, alors l'adjoint au maire, au sport, il n'y en a pas. Bon, à la culture, bon. Alors l'hôtel de France, on annule les chambres. On les met au Mercure à l'entrée de ville, ils vont pas nous faire chier, hein. Sinon, on fera les rencontres ailleurs. C'est
Monaco a battu Lille 2-1. Et puis Guingamp a sorti Fréjus Saint-Raphaël 1-0. Et puis l'aspiration, c'est un phénomène physique qui est bien connu hein, des cyclistes. Mais un coureur suivi de près par un véhicule, une voiture ou une moto, peu importe, en bénéficie également. Et donc deux études scientifiques dévoilent ce dopage aérodynamique, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils appellent donc à une réglementation plus stricte.
Merci Thierry Paré. Est-ce qu'avec ce sérieux qui vous caractérise, ça peut aller très loin? Si par exemple, on vous envoie une note où il y a écrit les Saturniens reçus par le président Hollande à l'Elysée, vous l'annonceriez comme ça?
De la même manière.
Ça ferait quoi? Une délégation saturnienne reçue à l'Elysée ce matin.
Une info de dernière minute, une délégation saturnienne va être reçue à l'Elysée tout à l'heure aux alentours de 11h.
Et puis j'inventerai une heure. Marine Le Pen est vraiment formidable.
Non, bah enfin.
Ça, c'est. Oui, c'est
non,
plus.
C'est ouais. Pas
vous avez quand même des réserves.
On n'entend rien dans ce cas.
On ne peut pas vous faire dire.
Le matériel
on ne peut pas tout vous faire dire non plus, Thierry Paré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Eugénie?
Elle prend son café.
Non, je la mets à la semaine.
Mais quel est l'apport pour les auditeurs que vous passez?
Tu as posé une question.
Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Alors, on est avec.
On est avec la météo de Tito. On est avec Jean.
On est sur du soupe.
Cocoyo, cococho, cococho, cocoyo. Cocoyo, cococho, cocoyo, cococho. Cococho, cocoyo, cocoyo, cococho. Cococho, cocoyo, cocoyo, cococho. Eh oui, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la Sainte-Irène, la Sainte-Irénée, la Sainte-Irina. Il y a de la joie partout, il fait bon partout, il y a du soleil, des nuages et des froufrous. Accrochez-vous, à Brest, il fera de 7 à 14, à Laval de 4 à 16, à Marseille de 7 à 20, à Limoges de 7 à 15, à Paris de 6 à 16, Saint-Étienne 4 à 14, Tahiti 22 à 28, Laval 4 à 16, Poitiers 6 à 16 et Tours 6 à 16. Cocoyo, cococho, cocoyo, coco. Cocoyo, cococho, cocoyo, cococho. Hey, cocoyo, cococho, cocoyo, cococho. Cocoyo, cococho, cocoyo, cococho.
Oui, bah c'est bon, faut pas non plus. Attendez, parce que j'ai vu que c'était la Sainte-Irène. Oui, j'appelle juste une Irène et puis après on part dans les rues avec Jacques souvent. Allô. Enfin, je suis désolé hein, parce que je trouve que c'est gentil quoi.
Irène.
Oui.
Vous connaissez une Irène?
C'est une dame. Elle était au café de Flore. C'était la dame qui tenait pendant 25 ans la caisse.
Ah Irène.
Après elle était au Drexstore. Elle est au Drexstore Publicis. Elle sert Gervais Gainsbourg tout le temps. Excusez-moi, je vous laisse un petit message
en direct. Oui,
elle a une petite histoire avec Nicolas Perrac. Oui Irène, très très bon anniversaire. Bonne fête.
Bonne fête.
Voilà,
bonne fête.
Je vous embrasse. Bisous, bisous, c'est
Edouard. L'homme qui murmurait au répondeur.
Voilà, on part dans les rues avec Jacques.
Mais alors ces plafonds peints, là, c'était des anciens bordels ?
Ouais, il y en a plein dans le quartier.
Ouais, ça me choque,
ça. Ça a été, en fait, le quartier, il a été le quartier de la prostitution jusqu'à la fin de la guerre. Mmh. Ensuite, ça a été un lieu plutôt gay avec plein de boîtes de nuit. C'est là où toutes les boîtes de nuit que vous voyez dans le film Saint-Laurent, c'était dans la rue. Mais avant, c'était le quartier des bordels. Là, vous avez le Chabanais, qui était un des plus connus, avec le One Two Two, qui était rue de Provence, derrière les grands magasins. Et c'était les grands lieux de la prostitution. Mais du coup, les décors sont restés. Chaque pièce avait un thème. Vous avez la pièce japonaise, la pièce africaine, voilà, que sais-je. Et donc, les plafonds sont restés. Il y a encore des beaux vestiges. Mmh. Et vous pouvez visiter des immeubles qui ont l'air de rien. Et finalement, vous vous retrouvez dans des univers super différents.
Les plafonds, c'est important parce qu'il y a ces mémoires d'une grande courtisane qui s'ennuyait tellement pendant l'acte, pendant son métier, qu'elle disait « j'en aurais vu des plafonds
». Exactement. Donc les plafonds, les miroirs, c'est des choses qui sont restées.
Et le reste, qu'est-ce que vous pensez, l'idée d'anciens bordels, de ces restaurants japonais qui s'installent beaucoup dans le quartier? Y a-t-il un rapport de cause à effet? Pouvez-vous nous tenir des propos racistes?
Alors, je ne peux pas tenir des propos racistes. La légende du quartier dit que les restos japonais, ça sert à couvrir l'argent de la mafia.
Ah,
donc, c'est peut-être finalement une nouvelle forme d'illégalité. Voilà.
Et puis, vous me disiez, Rantaine, il y a trop d'étrangers en France et il y a trop de Français en France. Vous me disiez aussi.
Ouais, donc finalement, il faudrait mettre tout le monde dehors, et les tout Français, les étrangers. Ouais. Et finalement, un Paris désert, ça serait pas mal.
Marcher seul comme une sorte de 15 août éternel.
Exactement.
Je vois
exactement.
Le projet.
Tiens, Jacques, aidez-moi, on va foutre tout le monde dehors.
Vous êtes dans quoi, monsieur?
Je suis dans la com.
Ah, la com. La com, ouais, c'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire le. Mais si vous voulez, il y a le savoir-faire, puis il y a le faire savoir.
Exactement.
Et vous êtes là pour faire savoir.
Exactement.
Vous voulez faire savoir quoi ce matin?
Je veux faire savoir que Paris est quand même une ville toujours magique et toujours belle.
Justement, on a la Titi de Paname avec son accordéon. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée. Titi de Paname, salut. Salut, Titi.
Ouais, quoi?
40 ans de Titi de Paname, 40 ans de pavé parisien, citoyen d'honneur de Montmartre, gamin de Ménilmuche, enfant de la Tour Maubourg, enfant de la Mouffe aussi. T'es un petit gamin de Saint-Germain-des-Prés, puis t'es un petit gars des Fortifs, t'es là, c'est Titi.
Ouais, bon, bah quoi.
Titi, on l'appelle aussi sac à mégot, ramasse-miettes, tire la misère, pépé l'embrouille, on l'appelle n'a qu'un œil et n'a qu'un pied, c'est Titi de Paname. Titi de Paname. Un vent d'air frais souffle dans le studio ce matin. Titi de Paname, 60 ans d'histoire parisienne. Lisez son livre. Titi de Paname, qu'il est bon remonter ses rues, ses avenues avec ce petit peuple de Paris. Rémouleurs, porteuses d'eau, marchandes de pied, fourreuses de pain, tous ces vieux métiers de Paris. Paname ressuscité grâce à Titi de Paname. Merci, à tout de suite. Ça, c'est Nova.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est cet honnête homme de Guillaume Villemot qui est passé nous voir aujourd'hui.
C'est ça, oui.
Hein, c'est vrai, je dis ça sans aucune ironie,
gentil.
Avec beaucoup d'admiration pour tout ce que vous faites, Guillaume.
C'est très gentil, Edouard.
Et là, vous revenez, après nous avoir aidé à rencontrer beaucoup d'initiatives locales avec les zèbres. Là, vous revenez avec un livre et un festival aussi, le Festival des Conversations, que vous avez animé depuis plusieurs mois. Vous avez déjà invité à deux rencontres, l'une avec Roland Castro et l'autre avec...
Ali Ben Maclouf.
Absolument, là, on va parler du troisième. Et puis, vous sortez un livre qui s'appelle « Oser les conversations ». Je trouve ça formidable déjà, le titre.
Le festival, d'ailleurs, Guillaume Villemot, c'est demain, jeudi.
Ouais.
et ça se passe au 50 avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement à Paris. Et ce livre aussi, donc Oser la conversation. Parler de conversation, de manière générale, en fait, c'est parler à la fois d'une histoire de la conversation. Il y a quelque chose de la conversation, comment on dit, dans les cafés, conversation bourgeoise, on dit ça au 19e, qui ont permis de constituer une opinion publique, on va dire, et ça a eu un rôle politique important dans l'histoire. Et puis, c'est parler du quotidien, c'est-à-dire de parler d'une conversation, d'un mode immédiat d'entrer en contact avec quelqu'un.
Je crois que c'est quelque chose qui a effectivement beaucoup existé dans les salons au 17e, au 18e siècle, au départ, qui du coup a été très codifié, ce qui fait qu'en France, on est assez finalement coincé dans nos conversations, on a du mal à aller assez facilement parler aux autres, et qu'en plus on a tendance à supprimer les cafés, ou en tout cas à voir les cafés disparaître, donc on perd les lieux de conversation. Et l'histoire que je raconte là dans le livre, c'est de montrer comment il y a un certain nombre de pays et de cultures qui eux ont su garder véritablement ces espaces de conversation, que ce soit les bancs à Amsterdam, que ce soit les placotoirs à Montréal. Il y a les placotoirs, parce qu'on va placoter. On va converser.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, ils créent des espaces pour converser. Parce qu'en France, on a supprimé les bancs, par exemple, dans les lieux publics, où on pouvait s'asseoir et parler avec les gens. Donc, l'idée, c'est de montrer comment on peut, assez facilement, parce que c'est facile de faire une conversation, on vient avec ce qu'on a avec soi, et on arrive assez facilement, finalement, à aller parler aux autres.
S'intéresser à la conversation aujourd'hui, c'est s'intéresser à l'écoute, ça veut dire militer pour une forme de débat quotidien, c'est aussi laisser la place à l'autre, c'est ça la question.
Oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est montrer à l'autre que l'autre est important et que l'autre apporte quelque chose. Quand on est dans la différence pour moi entre une conversation et un bavardage, c'est que la conversation, on va s'y engager, on va vraiment aller se livrer par rapport à l'autre. Alors que quand on va rester sur le bavardage, on peut faire plusieurs choses à la fois. La conversation, ça peut ne pas être quelque chose de très sérieux. On peut converser sur des tas de sujets. Le sujet de favori de conversation des Français, mais pas que des Français, c'est la météo. Parce que c'est une espèce de bien commun qu'on partage à un moment donné. Donc ça rassure. On parle d'abord du temps qu'il fait. Et puis alors, si on reste que là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais si en revanche, on arrive à aller partir sur d'autres sujets, ça devient riche et important. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de redonner envie aux gens le goût de prendre le risque d'une conversation.
Alors, pourquoi défendre aujourd'hui particulièrement la conversation et faire un festival ? De quoi on parle dans un festival de la conversation ?
De conversation ?
Oui.
Donc... Non, l'idée, c'est de montrer aux gens que c'est très facile. C'est-à-dire que comme il y a une fête des voisins où on vient avec sa quiche ou sa salade, bah là, on n'a besoin de rien apporter, finalement. On vient tel qu'on est et on peut assez facilement... ce que j'aime quand on fait ce festival, c'est quand les gens viennent me dire « Ah ouais, finalement, c'est pas très compliqué, je peux faire ça chez moi, je peux faire ça dans le métro et je peux... » En conversant avec quelqu'un que je ne connais pas forcément au départ, je peux m'apercevoir que j'ai affaire à quelqu'un qui me raconte quelque chose qui peut être intéressant ou en tout cas qui est enrichissant.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit venir à ce festival avec des arguments, avec des sujets de conversation ?
Non, pour reprendre le plagiat d'une signature publicitaire que j'aime bien, on vient comme on est. Non, on n'a pas besoin. Je crois que ce qui est important, la seule chose qu'il faut avoir avec soi, c'est sa capacité d'écoute. Parce que l'important dans une conversation, c'est la capacité à entendre l'autre. Et on n'est pas obligé, c'est drôle par rapport à ce qui s'est passé hier soir, par exemple, à la télé pendant 4 petites heures, qui pour moi est l'inverse d'une conversation. Si je veux prendre un parallèle culinaire, hier soir c'était un millefeuille, et une conversation c'est plutôt une mayonnaise. C'est-à-dire qu'on met des ingrédients ensemble, on ne sait pas très bien, c'est pas facile à faire, il faut passer du temps à la faire monter, etc. Mais en revanche, ça relève quelque chose après. Et je trouve que c'est ça l'intérêt d'une conversation, c'est que ça relève des choses et ça met en avant un certain nombre de choses. Donc la seule chose qu'on a besoin d'avoir avec soi, c'est d'être dans un état d'esprit de conversation.
Et d'après vous, est-ce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les échanges sur les réseaux sociaux, certains en parlent comme d'une multitude de conversations, d'une conversation mondiale, c'est cet ordre-là ?
Oui, moi, pour moi, on a plein de nouvelles fenêtres de conversation aujourd'hui qui sont à notre disposition. La difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas forcément les maîtriser et qu'on a tendance à aller s'embarquer sur les sujets en se disant « Ah, mais il faut absolument que je sois là, il faut absolument que je sois là, etc. » et que je réponde dans l'immédiateté. Or, on a une des choses qui pour moi est excessivement importante dans une conversation, c'est le temps, et c'est le temps qu'on y consacre. Donc il y a une chose qui est importante aussi dans les conversations, c'est le silence. Et quand on est dans la notion d'immédiateté où on répond en permanence, on perd ça. Donc oui, ce sont des formidables fenêtres. Oui, on voit arriver pour moi une forme de conversation mondiale avec l'arrivée par exemple de tout ce qui est emoji, émoticône, etc. Où finalement on arrive à se parler à travers les différentes cultures et on arrive presque même à faire passer la barrière de la langue autour de ça, derrière ça. Donc ça, c'est des formidables opportunités. Mais il faut juste qu'on apprenne à se servir de ces appareils comme étant des outils et pas comme étant quelque chose qui nous esclavagise.
Mais il y a ce qu'on appelle les bulles filtrantes, c'est-à-dire que on se parle, certes, mais à l'intérieur de chacun sa bulle, quoi, et dans une bulle où tout le monde est plus ou moins d'accord. Est-ce que ça, c'est pas une opposée à la notion de conversation ?
Alors, Moi, je reste intimement convaincu que la forme suprême, entre guillemets, d'une conversation, c'est ce qu'on fait là en ce moment, où on est en face à face et où on se parle et où on a tous les sens. Il y a une sensualité dans la conversation. On met vraiment en route tous ces sens à un moment. Donc ça, forcément, quand on est derrière des écrans, il y a un filtre qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la totalité des... Enfin, on ne met pas en route tous ces sens. Donc oui, on a un certain nombre de filtres. Ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui une possibilité de ne plus jamais interrompre une conversation, ou en tout cas de la stopper et de la reprendre excessivement facilement. Madame de Sévigné, ça fait chic de dire ça, disait que 50 lettres ne valaient pas une heure de conversation. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec un SMS. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir ce type de relations qui, au final, deviennent des relations physiques et réelles avec les gens.
Guillaume Villemot, vous dites dans Oser la les conversations dans votre livre, le jeu vidéo est une conversation.
Je n'ai jamais dit ça. Ses propos sont tout ranciers.
Oui, c'est la même voix que la baleine au début de l'émission.
C'est Madame de Sévigné. Pardon. C'est Madame de Sévigné qui était là, qui n'est pas d'accord, qui n'aime pas.
Il y a du monde aujourd'hui.
On passe voter les morts.
Oui, le jour où on parlait de jeux vidéo, Guillaume Villemot, oui. Vous dites dans votre livre que c'est un espace de conversation.
Ouais, c'est les jeux en réseau, en tout cas, sont devenus des espaces de conversation. C'est-à-dire qu'à partir d'un sujet commun, qui vont être des trucs auxquels je ne comprends rien, mais type World of Warcraft, etc., qui sont imprononçables en plus, où les gens jouent en ligue, on se rend compte que très vite, ils passent le stade du jeu en ligne, derrière un écran, et qu'ils disent « on veut se voir ». Et du coup, ils ont, là où, comme je parlais tout à l'heure de la météo, qui est un bien commun et qui permet de rassurer pour démarrer une conversation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de ce bien commun-là, ils vont démarrer sur quelque chose de qui partage. C'est ce que fait Mythic, par exemple, aujourd'hui, quand ils organisent des rencontres autour de cours d'œnologie ou autre. Tout d'un coup, on a un point commun. Et à partir de là, on essaie de trouver plus.
Qu'est-ce qui va se passer demain jeudi au 50 avenue des Champs-Élysées à Paris pour ce festival des conversations ?
On fait une nuit de la conversation. Donc, on démarre avec un thème général qui est l'engagement. L'idée, c'est justement de montrer comment on peut s'engager en conversation et comment cette notion d'engagement est particulièrement fort. Et on a 7 conversations différentes qui vont chacune durer environ 45 minutes, donc ce qui nous amène vers 2-3 heures du matin.
Oui, m'amène.
Mais ça a évolué parce que les conversations à table, autrefois, c'était les mariages, les notaires, l'argent, les familles. Et puis après, on finissait par la télé, les programmes télé et la radio. Maintenant, c'est la télé dans les conversations qui arrivent le plus souvent à table. Et ça a changé. Parce que la médiocrité de la télé a fait que maintenant, on revient à reparler des familles, des amis, tout ça et tout. Voilà, je voulais le dire. Et j'y tenais.
Bon. C'est important. Si on reste sur les repas, il y a un moment qui est extraordinaire qui crée des conversations, c'est la préparation des repas, encore plus que les repas eux-mêmes.
Et le livre s'appelle comment ?
Oser les conversations.
Il faut l'acheter.
Si on veut.
C'est le groupe.
C'est chez Erol. L'instant qui suit.
Comme ça, on pourra en parler derrière et faire une conversation.
Excellent. Merci, Guillaume Vimo.
Merci à vous.
7h-9h, plus près de toi.
Voilà, combien. Alors, je suis obligé d'interrompre François Lemontagne parce
à que... Contre-cœur. À contre-cœur.
À contre-cœur.
Parce que Lemontagne, il a beaucoup de talent, quand même.
Non, c'est pas la question. C'est simplement qu'il y a un peu de fragilité en studio. J'ai un petit tête qui souffre et qui a besoin qu'on lui tende... Oui, Thomas. Quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin...
Bien. Où suis-je?
C'est démoniacal.
Qui êtes-vous?
Je suis ton ami.
Qui?
Mon nom n'a que peu d'importance. Dans cette affaire, c'est plus la voie que tu dois suivre, qui va t'emmener vers le meilleur de toi-même. Ammoniacal, tu es mi-homme.
C'est mon nom.
Mi-pingouin. Mi-chiffon.
Parce que je crois que j'ai perdu la mémoire. Je suis amnésique.
Ah, ça c'est embêtant. Peut-être que ton petit générique pourrait t'aider.
Attends, j'essaie de me rappeler. Les mots, dis-moi les mots. Mignon, 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 ammoniacal. Ah oui, je me rappelle. Ah, je sais. En fait, hier, je me baladais dans la forêt extraordinaire et je me suis fait agresser par des trafiquants de serviettes d'hôtel. Mais ils m'ont rasé la serviette. Ils m'ont rasé le chiffon.
Ah, c'est vrai, tu n'as plus du tout de peluche sur ton chiffon.
Oui.
On dirait une serpillière. Pardon.
Mais ça va repousser, mais...
Ah, peut-être pas.
Mais si, ça repousse. Parce que ça repousse tout le temps, je suis obligé de la tailler, sinon je vois rien.
Il y a beaucoup de trafiquants de serviettes d'hôtel dans la forêt imaginaire.
Je sais pas.
Et ils sont méchants.
Oui, ils sont habillés en stuc.
Quels sont les autres prédateurs de la forêt imaginaire ?
Il y a des lions en bonbons, C'est très dangereux parce que à la fois ils vous mordent et à la fois on les mord parce qu'on les mange. Donc on finit.
Avec des caries.
Avec des caries. Et on meurt de caries. Les caries.
Il y a des dents. Eh ben tu t'amuses, toi. Il y a des dentistes dans la forêt imaginaire ou pas?
Oui, il y a le professeur Sorkenschluss qui nous cisaille avec des gros marteaux et c'est assez agréable là-bas.
C'est celui qui refuse d'endormir ses patients?
Oui, il refuse d'envahir ses patients.
Quels sont tes amis dans la forêt imaginaire?
Il y a Pampan, Chouchou, Lolo, Marc, Chouchouchou, Mouyou.
Et il n'y a pas Pico Pico?
Pico Pico, le hérisson?
Oui.
Mais c'est une autre histoire, mais oui, des fois on se croise avec Pico Pico.
Est-ce que tu croises d'autres histoires? Est-ce que tu as mis avec des schtroumpfs ou...
L'autre jour, j'ai été voir Tintin et bon...
c'est très surfait.
Ouais. Il a pas vraiment de conversation.
Ouais.
Il parle que du chômage et... C'est vraiment pas forcément très intéressant.
Merci Ammoniacal.
C'est toi, merci Ammoniacal aussi.
Je te souhaite une très très bonne rétention administrative. À demain pour les plus patients d'entre vous. Et quant aux autres, je vous recommande les 30 Glorieuses qui vont commencer juste cachées derrière Thierry Paret. Très belle journée et à demain avec joie.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.